France Culture, Affaires culturelles, Arnaud Laporte.
Ce soir, nous recevons l'autrice et metteuse en scène Tiphaine Raffier. Et puis deux échappées à l'étranger à 19h20, affaire en cours. Les fouilles archéologiques se poursuivent près des pyramides. Marie Sorbier a rencontré Ola N. Agouzi qui nous parlera des trésors récemment trouvés dans la Vallée des Rois. Et puis à 19h50, affaire à suivre en direction la Thaïlande ce soir avec Carole Izou, correspondante de France Culture. Le tout réalisé par Alexandre Fougeron avec Jérémy Kaufmann à la prise de son. Bonsoir Tiphaine Raffier.
Bonsoir Arnaud Laporte.
Votre spectacle, La Réponse des Hommes, se joue au Théâtre des Amandiers à Nanterre en co-réalisation avec l'Odéon Théâtre de l'Europe. Poursuivra ensuite sa vie en tournée à Villeurbanne, Lorient, Saint-Étienne, Toulouse, Tours, Valenciennes, Vire, Lille. Quelques villes d'ici le mois d'avril. Et puis un autre de vos spectacles, La Chanson. Reboot sera donné en mars-avril à Villeneuve-d'Ascq, à Dijon, à Lorient, puis un peu plus tard à Béthune. Dire aussi que votre spectacle précédent, France Fantôme, que j'avais eu la chance de voir à Lille lors de sa création, a lui été lourdement touché par la Covid avec une grande série de représentations annulées. La Réponse des Hommes est lui née au public un an et demi après la création qui était prévue au Festival d'Avignon 2020, annulée lui aussi pour cause de Covid. D'annulation en report, ce spectacle a été créé le 17 décembre à La Criée, Théâtre National de Marseille. Peut-être commencer que par là, malgré tout, Tiphaine Raffier, dans quel état d'esprit aujourd'hui êtes-vous par rapport au fait que ce spectacle rencontre enfin le public?
Très, très heureuse, très touchée de l'accueil et très intéressée aussi d'entendre le public écouter enfin ces œuvres, ces 9 œuvres de miséricorde, leurs variations, leurs détournements, parce que c'est pas exactement ça. Parce que ça m'apprend beaucoup, en fait, sur ce que j'ai appris. Et ça, c'était très long comme attente d'essayer de comprendre pourquoi j'avais écrit ça et comment je l'avais écrit. Il n'y a qu'avec le public qu'on peut comprendre. Et c'est enfin ce qui est en train de se passer.
Alors peut-être aussi en rebobinant le fil biographique, comme on essaye de le faire chaque soir ici, pour savoir ce qui vous a conduit à devenir l'artiste que vous êtes aujourd'hui, Tiphaine Raffier. Après une enfance, alors pour partie nourrie de films de science-fiction avec vos deux grands frères et pour une autre partie des comédies musicales plutôt avec votre père, c'est cette fois. Mais qu'est-ce qui a fait que vous avez demandé à vos parents d'aller à Meaux, parce qu'il y avait une section théâtre au lycée? Qu'est-ce qui vous a donné cette envie-là?
Il y avait une raison très rationnelle, c'est que je voulais pas aller à Mitry-Mory parce que j'avais été malheureuse à mon collège et que c'était mon lycée de secteur et l'idée était de fuir, premièrement. Et puis après, il y avait eu une petite rencontre avec le théâtre en cinquième et ça me semblait être un bon alibi, ouais.
Alors l'alibi transformé, comme souvent d'ailleurs, grâce à des professeurs, souvent les artistes qui viennent ici nous disent l'importance d'un ou d'une professeur, pour vous une professeure de lettres qui vous permet de découvrir des spectacles, Patrice Chéreau, d'Alain Françon, et qui vous explique que comédienne, c'est un métier. C'est un déclic pour ça, pour vous, de dire que oui, c'est un métier possible.
Oui, c'est un métier avec des droits aussi sociaux.
Une couverture sociale.
Exactement. Et ça, je ne le savais pas. J'avais cette espèce de d'image en tête d'une vie de saltimbanque, un peu sacrifiée. Et donc, quand j'ai appris ça, je me suis dit, tiens, peut-être que je peux y trouver ma place alors.
Et ces premiers spectacles importants, vus, comment vous les vivez?
En fait, c'est une dame, Anne-Violaine Taconnet, elle nous a éduqués à l'art, elle nous a vraiment élevés. On a aussi regardé Bergman avec elle, on regardait beaucoup de peintures, Lagarce aussi. Donc, c'est des moments fondateurs et qui innervent encore très fort mon rapport au métier. Et puis j'ai encore beaucoup en fait d'amis de cette période du lycée qui sont d'ailleurs dans le théâtre, tous à des postes un peu différents, mais comme quoi cette classe, on se le dit parfois, il y avait un moment très fort et fondateur.
Et puis ensuite la Sorbonne, Censier, licence en art du spectacle, des cours à l'ENMAD, à Noisiel aussi, et puis le concours de l'École du Nord à Lille, où passez brillamment, vous ferez donc partie de cette deuxième promotion de l'école où le directeur du Théâtre du Nord, Stuart Side, enseigne. Évidemment, on va l'écouter, Stuart Side, en studio théâtre au micro de Laure Adler en mai 2008.
Moi, je ne serais pas là où je suis si des gens comme Antoine Vitez ou Jean-Pierre Vincent ou Ariane Mouchkine m'avaient pas aidé, m'avaient pas donné des moyens, un peu de sous, mais surtout un espace, une salle de répétition, un théâtre. Et je pense que mon devoir, notre devoir, oui, le théâtre, c'est le présent, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi le théâtre de demain, le théâtre que peut-être que je ne ferai pas, mais qui sera fait en 2040. Et c'est important. Moi, Newton a dit, je me tiens sur les épaules des géants, on tient tous, si on est là, parce que des gens nous ont aidés, et nous, à notre tour, il faut faire la même chose. C'est la meilleure façon que j'ai de remercier et récompenser Antoine qui n'est plus là, ou Jean-Paul Roussillon qui m'a tellement aidé, c'est avec les autres.
On peut dire qu'il l'a fait, Stuart Side, aider les autres, s'intéresser au théâtre de 2040, celui qui est le vôtre d'une certaine façon. Qu'est-ce qui vous reste de cet enseignement, de cet accompagnement de Stuart Side, Stéphane Raffier?
Il me reste des phrases comme des mantras, à qui tu parles, des adresses d'acteurs, en fait, des choses, quand tu te tournes, tu dois parler plus fort, Lady Macbeth n'est pas une pute. Enfin voilà, des choses comme ça, en fait, qui sans cesse me reviennent, et on sait un peu la boîte à outils de l'acteur quand il y a une direction d'acteur qui pêche un peu, quand on n'est pas beaucoup accompagné par le metteur ou la metteuse en scène. Voilà, on est bien outillé quand on a travaillé avec Stuart Side, et ça se sait dans le métier. Et puis, il parlait de vitesse, et c'est vrai que moi, j'ai aussi rencontré un très très grand vitésien qu'on cite pas souvent, qui s'appelle Mourad Mansouri, et qui était un professeur extraordinaire que j'ai rencontré avant l'École du Nord, et il me reste beaucoup aussi de son enseignement. J'ai découvert Corneille avec lui, et le dilemme cornélien me reste aussi de cette époque. Comme on a fait un spectacle sur le dilemme, voilà, je me permets d'en parler.
Ah ben, vous faites extrêmement bien, et puis à l'École du Nord, il y a toute une bande de jeunes gens très très doués qui vont créer des spectacles et un collectif. Si vous pouviez lécher mon cœur, ce spectacle mis en scène par Julien Gosselin, vous en faites partie. Gêne 01, Fausto Paradivino, Tristesse, Animal Noir, Anya Healing, puis Les Particules élémentaires d'après Houellebecq, 2166 d'après Bolaño. Mais en parallèle, Tiphaine Raffier, si vous êtes comédienne dans ces spectacles, vous commencez très vite à développer votre propre travail dès 2012 avec la première pièce que vous écrivez, mettez en scène, La Chanson. C'est la première édition du festival Prémices à Lille. Cette pièce qui deviendra plus tard un court-métrage que vous réaliserez également. L'écriture, elle arrive à quel moment dans votre parcours?
Exactement à ce moment-là.
S'il n'y avait pas eu commande, il n'y aurait pas eu écriture?
Non. Honnêtement, non, j'avais pas. Enfin, j'écrivais des carnets, c'était pas de l'écriture. C'était pas de l'écriture d'art dramatique. Moi, je voulais écrire un spectacle. Je voulais faire une création, en fait. C'est ça qui m'a intéressée. Et donc, comme on m'a donné un plateau et des conditions très claires, 3 acteurs, 3 semaines de répétition, tu le prends ou tu le prends pas. C'était vraiment, c'est entre deux portes au Théâtre du Nord. Et j'ai dit oui. Il dit ok, dans 2 mois, tu nous dis à peu près ce que tu veux faire parce qu'il faut qu'on écrive quelque chose. Et je savais pas, 2 mois plus tard, je savais pas ce que je voulais faire. Et donc je l'ai dit comme ça. J'ai dit je vais l'écrire. De toute façon, je vais l'écrire. Donc vous ne pourrez pas écrire sur vos papiers. Il y aura pas de programme parce que pour l'instant, j'ai pas de texte. Et c'était un peu pour qu'on arrête de me poser des questions. Et puisque je l'avais dit, il fallait que je le fasse. Voilà.
Oui, mais entre le dire et le faire, il se passe quoi?
Bon, il se passe un été un peu d'angoisse où je lis beaucoup de choses et puis finalement. Et puis finalement, voilà, j'ai envie de parler de ma ville d'enfance, Val d'Europe, de l'univers de Disney. Je lis beaucoup de choses sur le mainstream et je commence à comprendre aussi mon enfance. Et puis j'écris le personnage de Pauline, une fille qui veut devenir une artiste. Et voilà, cette fable un peu bizarre qui est la chanson. Et aujourd'hui, la chanson reboot naît. C'est bizarre, je sais pas, je peux pas l'expliquer autrement.
La chanson, alors Reboot, le spectacle qui tourne en ce moment, c'est Reboot parce qu'il a d'abord trois autres interprètes. Mais qu'est-ce qui vous a donné l'envie de revenir à ce spectacle et de, cette fois de diriger, puisque vous étiez l'une des trois, hein, on ne l'a pas dit dans la chanson, avec des camarades bien choisis, Noémie Gantier et Victoria Kennel.
Oui. Et Pierre Martin à la vidéo.
Oui, ça, Pierre Martin, on va en reparler. Mais qu'est-ce qui vous a donné envie de recréer ce spectacle, la chanson, ce tout premier ?
J'étais intéressée par les thèmes qu'il soulevait en 2012, d'abord l'écologie et puis un peu le féminisme, qui sont deux thèmes qui là sont sur le devant de la scène.
Et ABBA en plus, le retour d'ABBA, c'était pas
attendu. Et le retour d'ABBA, ça,
mais...
je l'avais pas prévu, j'avoue, mais
parce
c'est
que
vrai.
Les filles de la chanson
oui.
sont des fans d'ABBA.
Oui, absolument, elle répète un spectacle de sosie. Et puis j'avais aussi envie, dans une volonté là, plus de productrice de spectacle, d'aller jouer dans des lieux où je ne vais jamais jouer. Parce que ça n'est pas mon réseau. Des petites salles, je voulais que mon frère puisse aller voir la chanson dans les Pyrénées. Je voulais que ça joue ailleurs, en fait, que dans le réseau CDN, scène nationale, plutôt dans des salles communales. J'aimerais que ça aille jouer à Uzès, chez mes parents. Je passe des messages en même temps. Voilà, pour qu'en fait, un public que je rencontre peu, voire jamais, puisse découvrir mon travail. Donc c'est aussi cette volonté-là, en fait, d'avoir une production moins chère, qui monte le matin, qui joue le soir, qui est à minuit, le décor est dans le camion, et on peut repartir ailleurs jouer, et on offre un spectacle de qualité, un théâtre contemporain. Ça me plaisait beaucoup, voilà.
Bon, avis aux amateurs, notamment à Uzès, mais pas seulement. Vous l'avez dit, proposition entre deux portes, création d'un spectacle, donc l'écriture, mais le désir de mise en scène, il était déjà présent chez vous, Tiphaine Raffier ?
C'était la première chose. J'avais déjà fait, j'avais embêté mes collègues à l'école, j'avais travaillé sur les visionnaires de Démarrer de Saint-Sorlin, et puis avant j'avais travaillé sur Copie, j'étais celle qui restait jusqu'à minuit avec les clés de l'école et qui disait « non, venez, on travaille encore, on essaie de faire nos propres spectacles, nos trucs », voilà. Ça a toujours été là, ouais.
Et qu'est-ce qui a fait que c'est Julien Gosselin et pas vous qui avez mis en scène tous les camarades ? Parce qu'il était acteur lui aussi, hein.
Il était acteur, ben... En fait, l'histoire s'est racontée, on était un collectif, et puis à un moment, il y avait cette idée incroyable de monter les particules, et puis moi j'avais ma vie d'actrice aussi, ouais. Et j'avais envie de défendre ce poète incroyable qu'est Houellebecq. Donc voilà, et puis le hasard, la chance, la bénédiction de ce moment et de cet été à Avignon a fait que ça a explosé et que j'ai aussi, je suis entrée dans le théâtre par cette très grande porte.
Et... Oui, parce que deux ans avant, c'était on vous tractiez pour le off.
Oui, oui. Mais j'avais adoré cet été aussi.
C'était bien aussi.
C'était génial. J'avais adoré jouer dans le off. J'avais perdu 5 kilos. C'était, mais bon, j'avais la foi. Moi, j'ai toujours eu la. Enfin, c'est. Je ne sais pas ce que c'est que de pas savoir ce qu'on veut. Je suis déterminée. J'ai toujours été déterminée. Et voilà. Ça, c'était immense cet été dans l'Avignon off. Ouais.
Alors, vous avez poursuivi l'écriture avec Dans le nom, en 2014, que vous mettez aussi en scène. On y retrouve d'ailleurs aussi certains interprètes du collectif, si vous pouviez lécher mon cœur. Et puis, vous avez évoqué Pierre Martin, qui signe toujours les créations des vidéos de vos spectacles, encore aujourd'hui, comme ceux de Julien Gosselin d'ailleurs. Partager comme ça un même artiste entre vous, est-ce que ça... Ça pose question sur ce que vous lui demandez, sur la façon dont il doit s'inscrire dans votre imaginaire, et puis ensuite de Julien Gosselin.
Oui, mais ça c'est le propre d'un collaborateur, de Évidemment, on a aujourd'hui des théâtres, je crois, assez différents avec Julien. Et on ne demande pas tout à fait la même chose à Pierre. En tout cas, la question de la vidéo, dans mon travail, je crois, se situe à un autre endroit que celui de Julien. Et ce sont des endroits complémentaires qui dialoguent beaucoup, que je trouve très intéressant. Et moi, je suis encore immensément admirative du travail de Julien. Mais je crois que Pierre, il fait des choses presque opposées, en fait. Chez Julien et chez La Femme Coupée en Deux.
La Femme Coupée en Deux, c'est le nom de votre compagnie.
Oui.
C'est vous.
C'est moi,
La Femme Coupée en Deux. Voilà, disons-le tout de suite.
Pour citer quelqu'un, c'est moi.
C'est vous. Mais on verra devant comment ce travail vidéo s'inscrit dans ce nouveau spectacle, enfin nouveau pour nous, spectateurs. La réponse des hommes, on en parle dans quelques minutes, mais auparavant, on va marquer une pause dans notre conversation pour écouter celle que Marie Sorbier va avoir maintenant dans Affaires en cours.
L'affaire en cours du jour, des trésors perdus et des pyramides. La chaîne National Geographic propose une série documentaire en 8 épisodes. Une équipe internationale d'archéologues fouille beaucoup et trouve parfois des trésors perdus de la vallée des rois. Hola El Aghouizi, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes égyptologue, professeur émérite à l'Université du Caire.
Oui.
Et vous avez participé à cette dernière expédition. Alors qu'avez-vous découvert sous ces pyramides ?
Bon, mes fouilles ne sont pas sous la pyramide, mais ils sont tout près de la pyramide de la troisième dynastie, la pyramide du roi Djoser à Saqqara et aussi à la pyramide du roi nommé Ounas de la cinquième dynastie. Donc, notre site, c'est un site du Nouvel Empire et ce n'est pas la première fois qu'on retrouve des tombes datant du Nouvel Empire et surtout de la 18e et du début de la 19e dynastie. Notre site continue, un site qui avait déjà été exploré il y a bien longtemps par des fouilles hollandaises, anglaises et italiennes, et dont la tombe la plus connue, c'est la tombe du général Horemheb. Nous sommes au nord de ce site exactement, et je suppose que nous représentons la fin de ce site. Donc, nous retrouvons des tombes qui datent de l'époque ramesside et plus spécialement de l'époque du roi Ramsès II.
Et qu'est-ce qu'on y voit dans ces tombes ? Qu'est-ce que vous avez découvert de notable cette fois-ci ?
Voilà, ce que je retrouve, c'est qu'on commence à fouiller et qu'on rentre dans plusieurs niveaux dans le sable, nous retrouvons ou bien des murs qui sont en place avec des scènes très belles et des inscriptions, des textes très importants à étudier, et en même temps un art superbe de l'époque ramesside. Nous retrouvons des briques crues parce que la base de ces blocs en calcaire, c'est la brique crue parce que c'est ainsi que la tombe entière est construite. Mais ce que nous retrouvons parfois, comme je dis, sur place, exactement à leur emplacement à l'origine, ou d'autres fragments qui sont dans les déblais. Et ces fragments-là sont aussi très intéressants, mais tout de même, on ne sait pas exactement de quel mur ils sont originaires. Donc, on est obligé de faire un travail de regroupement des textes, de regroupement des scènes pour pouvoir reconstruire la tombe. Les tombes sont très intéressantes parce que ce sont des tombes assez grandes qui prennent le style d'une tombe-temple. Elles ont plusieurs cours. Elles ont un sanctuaire du côté ouest où il y a tous les rituels divins qui s'y passent. Et toujours, il y a la représentation du propriétaire de la tombe, de sa femme, qui entre dans la tombe et qui se dirige vers l'ouest, parce que c'est là où ils vont mourir. Et puis, les scènes d'offrande, les scènes du jugement dernier, toutes ces scènes-là, avec tous les porteurs d'offrande qui sont dessinés et inscrits sur ces murs. La dernière année, on a retrouvé une tombe qui avait un style plutôt spécial, parce que les murs de sa première cour, et je mets un point d'interrogation, parce que nous ne sommes pas encore sûrs si c'est la première cour ou pas, nous devons faire d'autres fouilles pour continuer la tombe, mais les scènes sont toutes sur une base de plâtre et ils sont dessinés avec de très belles couleurs. Ça, alors, c'était nouveau pour nous, c'est un style que nous n'avons pas retrouvé à cet emplacement, surtout dans une salle du début de la tombe, on le trouve d'habitude dans les sanctuaires ouest. Donc, les scènes sont superbes, elles gardent très bien leurs couleurs. Et en même temps, nous avons encore, en plus de ces scènes-là, une salle qu'on appelle la salle hypostyle ou péristyle, donc une salle où il y a des colonnes, qui est entourée de colonnes. Cette salle-là, elle est avec des colonnes que nous appelons des colonnes ou des piliers, parce qu'ils sont carrés, des piliers Djed. Les piliers Djed, ce sont les piliers qui représentent le dieu Osiris, le dieu du jugement dernier, le dieu du monde des morts, et les piliers servent à hausser ou à relier le monde des morts et avec le monde de la vie. Donc, c'est là, c'est ce cycle-là entre la mort et la vie, c'est ce que représentent ces piliers-là.
Et qu'est-ce que vous ressentez, vous, quand vous découvrez ces espaces qui ont été privés d'humains pendant 3000 ans parfois? Vous êtes les premiers à pénétrer dans un lieu qui a été fermé si longtemps. Qu'est-ce qu'on ressent?
Vraiment, c'est une extase, enfin, comme on dit. Mais le problème, c'est que ces tombes-là ont été ouvertes il y a quelque temps, au 19e siècle. Par exemple, il y avait encore quelques fragments ou quelques vestiges de ces tombes qui apparaissaient encore sur la surface. Donc, on savait qu'il y avait des tombes à cet endroit. Il y a beaucoup de savants, égyptologues ou bien explorateurs français, suisses, de toutes les nationalités qui avaient visité le site. Et ils ont pris ce qu'ils pouvaient prendre. Ils ont pris les blocs qu'ils pouvaient prendre et ils les ont mis dans les musées. Ou bien, ils ont pris des photos. Et ce sont ces photos-là qui nous aident aussi à savoir comment est-ce que ça s'est développé, toute cette région-là. Si vous voyez les photos, vous allez voir des scènes où je suis assise par terre en train de déblayer, en train de brosser la pierre qui vient d'apparaître devant moi. Et c'est vraiment un très beau sentiment que nous avons quand on les trouve.
La saison 3 des Trésors de la Vallée des Rois se regarde tous les dimanches sur la chaîne Nationale Géographique. Merci beaucoup, Ola El Aghouzi, d'avoir été avec nous ce soir. Merci, madame.
Pas de quoi, merci à vous.
France Culture, Affaires culturelles, Arnaud Laporte.
Et nous poursuivons cette émission en compagnie ce soir de Tiphaine Raffi avec le choix musical de notre invité. Nous allons entendre, au moins le début, de la sonate pour piano numéro 32, opus 11 de Beethoven, interprétée ici par Vladimir Ashkenazy. Thank you. cette sonate durant 27 minutes, Tiphaine Raffier.
J'ai pas fait un choix très opportun.
Je me sens obligé de l'arrêter parce que c'est surtout vous qu'on a envie d'écouter ce soir. Mais on apprend qu'il y a 6 niveaux dans l'échelle de la douleur en musique. Dans votre pièce, La réponse des hommes, alors elle se situe à quel niveau cette sonate de Beethoven pour vous?
Il n'y a pas de douleur, peut-être un peu plus tard, mais il y a tellement de l'inattendu, de la surprise. Moi, en fait, j'ai découvert ce morceau en lisant donc Docteur Faustus de Thomas Mann, un conseil de lecture que je dois à Stuart Side. Et je l'ai lu bien 15 ans après son conseil, mais bon.
L'important, c'est de l'avoir fait.
Exactement. Et en fait, il y a un personnage incroyable de musicologue qui s'appelle Kretschmar dans ce roman, qui vient décortiquer cet opus 111 et qui vient nous expliquer pourquoi il n'y a pas de troisième mouvement, pourquoi Beethoven n'a pas pu écrire de troisième mouvement. Enfin, a décidé de ne pas en écrire un. Parce que le deuxième se suffit, en fait, et qu'il achève, en fait, cette sonate avec le deuxième mouvement et que le troisième est impossible, en fait. Et il y a une phrase incroyable dans cette description. Ce musicologue est bègue. Enfin, ce roman est génial de toute façon. Et à un moment, il dit « L'art rejette toujours l'apparence de l'art ». Et j'adore cette phrase qui est un mantra. Et je trouve qu'il y a quelque chose comme ça dans ce qu'il fait de Beethoven, d'inattendu, avec ses mains qui sont comme des coups de marteau. Qui, moi, me touche énormément. Ce morceau, il est dans Assister les malades. Il y a un personnage de musicologue très important dans Assister les malades. Et on s'est amusé, parce que je cite aussi Thomas Mann, en fait, à inventer un compositeur imaginaire qui est entre Gesualdo et Beethoven, en fait. Et donc, il y a une musique imaginaire qui a été inventée par Othman Louati, un compositeur de génie bien vivant, celui-là. Et notre musicologue à nous vient décrypter notre miserere imaginaire.
Voilà. Alors, pour parler de ce spectacle, La réponse des hommes, vous avez évoqué tout à l'heure les œuvres de miséricorde. Il faut un petit peu expliquer ce qu'il en est. Il y a 7 œuvres de miséricorde corporelles, dont l'une donne son titre à une pièce de Pirandello, Vêtir ceux qui sont nus. Là, on la connaît mieux quand on connaît le théâtre. Mais il y a aussi Nourrir les affamés, Donner à boire à ceux qui ont soif, Accueillir les étrangers, Assister les malades, Visiter les prisonniers, Ensevelir les morts. Et puis il y a 7 œuvres de miséricorde spirituelle, je ne vais pas toutes les énoncer. En 2016, le pape François a ajouté une 15e œuvre de miséricorde, Sauvegarde de la création. Ça fait 15, mais à quel moment vous vous êtes dit que de ces œuvres de miséricorde, vous pouviez faire théâtre?
Parce qu'en lisant les phrases des œuvres de miséricorde, j'y ai tout de suite vu des titres magnifiques. Je trouvais que déjà c'était de la littérature. Et elles m'ont immédiatement posé des problèmes. L'idée est de faire le bien, de ne pas se poser de questions. Moi, j'avais envie de les questionner.
Contrairement au décalogue qui interdit, les œuvres de miséricorde, elles demandent à faire.
Hein. Voilà, ce sont des injonctions conséquentialistes. Donner à manger aux affamés. Et elles disent même pas, mais si on rencontre des problèmes, mais comment on doit donner à manger aux affamés? Voilà, moi, c'est le détail du réel et de ces difficultés que j'ai essayé à incarner par des histoires de la fiction. Et chacune de ces histoires a pour titre une œuvre de miséricorde.
Quelles sont les étapes de travail pour vous? Est-ce que ça commence par le texte? Est-ce que ça commence par le choix des interprètes? Est-ce que ça commence par un espace de jeu?
Tout.
En même temps?
Non, un peu le texte, j'écris. Après, je sais où va se passer ma première, donc ça joue beaucoup. Par exemple, là, j'ai écrit ce spectacle pour le Festival d'Avignon.
Et pour un lieu particulier du festival. Vous vouliez jouer où?
Je voulais jouer à la Fabrica et on m'a dit que j'allais jouer à Veden. Bon, finalement, j'ai joué nulle part.
Ça aurait été un grand plateau de théâtre, en tout cas. Une boîte.
Voilà. Après, j'écris. Je fais sans cesse des allers-retours avec le plateau. Souvent, les répétitions commencent. Je fais des allers-retours. J'écris le matin, je répète l'après-midi. Et les acteurs, je peux vraiment me plonger dans l'écriture concrètement quand j'ai mes acteurs. Parce que j'écris beaucoup pour eux, pour ce qu'ils m'inspirent. Et pour leur singularité à chacun, parce que j'aime aussi aller chercher des gens qui viennent d'univers différents. Donc c'est un beau chaos, mais à un moment ça s'ordonne un petit peu.
Alors justement, à propos de ça, et à ce stade de notre conversation, écoutez alors deux metteurs en scène évoquer ce moment-là. Écoutons, on va les écouter à la suite, Patrice Chéreau, puis Julien Gosselin.
L'inspiration, ça n'existe pas. Je ne connais que le travail. Et après, brusquement, si on a bien travaillé, apparaît quelque chose, mais tard, hein. Tard, vers 15 jours avant la première, apparaît ou pas, d'ailleurs, apparaît quelque chose qui, brusquement, est le résultat du travail et de la maturation. Mais au départ, il faut pas essayer de trouver le résultat tout de suite. Le résultat arrive. S'il doit arriver, il arrivera. Il sera la somme du travail de tout le monde. Et de l'imprégnation de tout le monde qui fait que brusquement on découvre des choses et on voit naître. Le seul intérêt du théâtre, c'est ça, c'est de voir naître au dernier moment, même très tard, un spectacle qui n'est pas tout à fait celui auquel on avait pensé, mais qui est magnifié par les acteurs ou par les chanteurs.
C'est toujours difficile de raconter, et c'est ce que les gens, vos invités, font ici, c'est toujours difficile de raconter son art, ou disons sa pratique artistique. On sait jamais vraiment, quand on arrive en répétition de théâtre, on sait jamais ce qu'on est capable de faire, on sait jamais ce qu'on a entre les mains, on sait jamais si on va réussir à faire ce qu'on imagine qu'on va faire. Donc il y a toujours un état d'extrême fragilité. Moi, je supporte pas l'idée qu'on puisse accoler par exemple à mon travail l'idée de maîtrise, parce que je me sens pas du tout maître des choses que je mets en jeu. Donc l'idée d'apprentissage, oui, elle est maximale et elle est encore là aujourd'hui. Après, c'est vrai que je dois dire que je fais pas du tout le même théâtre sans doute que je faisais il y a 7 ou 8 ans, et je souhaite de tout cœur faire un théâtre absolument différent d'ici 7 ou 8 ans. Je dis souvent, alors c'est peut-être un peu excessif, que j'ai l'impression que le trajet d'un artiste doit aller davantage vers l'échec que vers la rondeur et la réussite. En tout cas, je crois que on doit tous essayer de flirter avec des zones d'inconnu et de ratage possible si on veut à un moment faire avancer l'art qu'on essaie de produire. Donc oui, je souhaite faire un théâtre que je ne connais pas, un théâtre qui m'est difficile à faire d'ici 10 ans.
Alors le travail, le doute, le groupe, et puis le spectacle qui s'invente sous les yeux dont parlait Patrice Chéreau, et puis ce doute dont parle aussi Julien Gosselin dans la phase de création, ce désir d'aller vers l'inconnu pour faire avancer son propre travail. Qu'en est-il pour vous, Tiphaine Raffier, par rapport à ces propos d'autres metteurs en scène, d'autres collègues?
Il y a deux choses. J'ai la sensation que moi, mon risque, il va... c'est la notion de risque qui m'intéresse beaucoup dans l'écriture. Il va aussi parler ce dont je vais parler au plateau. J'ai besoin qu'on me parle de choses que je vois pas souvent au théâtre. J'ai besoin que le théâtre, prenne une parole qui n'a pas encore été prise dans l'histoire du théâtre. Je crois que c'est pour ça que j'ai fait de la science-fiction. Je crois que c'est pour ça que la chanson, ça parle d'une zone qui semble Val d'Europe, enfin, athéâtrale, apoétique, absolument. Et puis que là, on aborde des sujets très difficiles, comme l'instinct maternel qui n'arrive pas. Enfin, l'instinct maternel, ça n'existe pas d'ailleurs. La maternité psychique qui n'a pas lieu, voilà. Ou encore l'alcoolisme ou la pédophilie. Ça donne très envie de venir voir le spectacle, mais on rigole aussi beaucoup. Et je crois que c'est un spectacle très généreux.
Qui a de l'énergie et qui est généreux, en effet.
Où on chante, où on danse et où on donne surtout les moyens au public de réfléchir et de se questionner. Et donc, la notion de risque dans l'écriture m'intéresse. Mais pour ça... j'ai besoin de travailler une mise en scène, un plateau qui vient contredire ce que j'ai écrit, qui vient le questionner. Parce qu'on parle souvent en fait de mes textes, mais on ne parle pas beaucoup de mon geste de mise en scène, qui est tout autant travaillé, voire plus en fait parfois.
Eh bien justement, puisque vous en parlez, parce que la très grande différence avec Patrice Chéron et Julien Gosselin, c'est que vous êtes l'autrice de vos spectacles, Tiphaine Raffier, et ça compte ô combien, mais il y a ce que vous en faites de vos propres textes. 10 comédiens ici sur le plateau, 4 musiciens, forme ample, y compris sur la durée, 3 heures de théâtre pour cette réponse des hommes, à commencer par de longues séquences qui vont être jouées hors de la vue des spectateurs, mais en vidéo projetée sur le mur de fond de scène. Ça dure première demi-heure, on va dire. Et puis, de ce fait, l'entrée d'une comédienne sur le plateau, ça crée un événement, parce qu'elle va venir s'adresser à nous et parler, c'est peut-être des réminiscences de votre enfance aussi, parler des films catastrophes pour poser la question... Qui doit-on sauver, hein? Pourquoi est-ce que les femmes et les enfants d'abord? Enfin, des questions qui, tout d'un coup, prennent un relief très particulier. Et puis ensuite, elles nous confrontent donc à des questions morales fondamentales. Et puis après, la troupe va investir le plateau de façon très différente, donner encore une nouvelle énergie. Il y aura des séquences plus intimes, comme des gros plans. Il y a différentes temporalités. Ce rythme interne du spectacle, il se trouve... Alors, il est à l'écriture, certes, mais il faut qu'il ait une traduction scénique. Ça demande quoi comme travail pour vous ?
En fait, chaque œuvre est venue interroger une forme au plateau. Accueillir les étrangers, nourrir les affamés, qui est la première œuvre, qui est l'histoire de cette femme qui rejette son bébé. Ça n'est que l'histoire d'une éducation au regard. On va lui apprendre à regarder son bébé pour pouvoir l'aimer. C'est vraiment un thème très lévinassien. Et le bébé, on ne le verra jamais, mais elle, on verra son regard, nous regarder. Et on ne sait pas bien ce qu'elle regarde, mais elle regarde face caméra. Et puis on lui dit toujours non, regardez là, regardez votre enfant, non, nommez votre enfant, non, regardez là, telle chose. Bon. Et c'est ce regard contrarié qui m'a beaucoup intéressée, et ça je ne pouvais pas le faire sans la vidéo, parce que j'ai besoin de gros plans pour raconter ça.
Et ce regard caméra très important.
Absolument.
En effet.
Donner à boire aux assoiffés, par exemple, c'est une sorte de jeu complètement avec des règles arbitraires
qui est très drôle pour le coup.
Qui est très drôle.
Jeu de massacre, mais drôle.
Voilà, qui va se transformer en une forme de sacrifice à un moment. Et d'ailleurs, il y a un hôtel dressé au centre sur lequel il y a des cadeaux. C'est une sorte de Secret Santa, enfin, où voilà, chacun offre des cadeaux et en fait, on peut se les échanger. Et à ce moment, les musiciens se mettent à jouer et tous les acteurs dansent autour justement de cette espèce de totem. Et ça, il fallait, je ne sais pas comment, mais il me fallait de la danse dans cette œuvre. Aussi parce qu'il y a un personnage joué par François Godard qui est en fauteuil. Et comme on est tout le temps à travailler
fauteuil roulant.
En fauteuil roulant, pardon. À travailler sur le vertige moral, sur l'inconfort moral, dans cette famille où il y a quelqu'un qui ne peut pas danser, on danse. Ce sont des gens assez cruels aussi, ça se révélera par la suite, par la fin, parce que il y a une fin dans chaque histoire, il y a une réponse qui est donnée aussi dans chaque histoire. Donc c'est ce que j'écris qui vient ensuite questionner la forme que je vais choisir au plateau avec les interprètes.
Oui, parce qu'on a du cinéma, on a de la musique, on a de la danse, sous le patronage aussi de Fred Astaire, des textes projetés sur l'écran, des textes joué, dit, bien sûr. Tous les arts, de fait, sont convoqués. Donc, on repense à ce désir wagnérien. Mais c'est ce que vous faites. Vous faites de l'art total.
Je sais pas répondre à ça. Oui.
Vous convoquez tout.
Oui, mais parce que le théâtre est comme ça. Il a toujours été comme ça. Il y a toujours eu et des masques et de la musique et des images et de la poésie. Et puis c'est vrai que je lis aussi beaucoup de romans et d'essais et pas beaucoup de théâtre. Parce que Il me semble que j'ai ça dans le sang, je sais dialoguer les scènes. Je ne sais pas si un jour, j'ai eu un don ou en tout cas un cadeau qu'on m'a donné, ou alors j'ai développé ça peut-être parce que j'étais seule, une fille avec deux garçons et que j'avais des conversations peut-être seule dans ma tête parce que j'étais la petite dernière, j'en sais rien, mais je sais dialoguer les scènes. Donc, en fait, le théâtre, il m'est facile pour moi. Et après, moi, ce que j'aime, c'est convoquer d'autres artistes, d'autres collaborateurs, travailler avec des ingénieurs du son incroyables, Hugo Hamann, Martin Hénard, travailler avec des vidéastes, des danseurs, des musiciens, les compositeurs, pour que tout ça, on ait le plaisir du spectacle aussi. Mmh. Moi, j'ai envie de donner ça au public, qu'ils aient de la beauté et du spectacle, du grand spectacle, dans le théâtre public. On ne sait pas besoin d'être austère, le théâtre contemporain. Surtout pas, en fait. Parce que il est question d'un service public. Donc, il faut que les gens aient envie de revenir. Ça doit pas être synonyme d'ennui, ça doit être synonyme de plaisir, je crois. Même si le plaisir est grinçant, parfois, dans les thèmes abordés, mais...
Le plaisir, il est nourrissant aussi, puisque toutes ces questions, on se les pose, évidemment.
Oui, je l'espère, oui. Qui résonne avec la vie, l'intimité de chacun aussi.
Mais à propos de plaisir, Tiphaine Raffier, ça vous manque pas d'être sur le plateau, vous, comme comédienne, comme interprète ?
Ça me manque pas parce que je continue de faire l'actrice Arnaud Laporte. J'ai la chance de jouer avec Jacques Vincé dans Les Serpents de Marianne Diaye. Bien sûr, on a encore des dates cette année.
Ah, ça c'est une bonne nouvelle.
Et puis j'ai joué avec Castorf il y a quelques années. C'était
il y a 2-3 ans maintenant.
Oui. Mais non. Et puis je vais faire un petit peu de cinéma aussi. Ça me manque pas. Non. Bon. Pas du tout.
Dans vos spectacles, votre place, a priori, mais ça peut changer ou pas ? Ce sera toujours celui de la metteuse en scène, autrice, mais pas interprète elle-même ?
Oui, j'ai trop de choses à faire à ce poste-là.
Oui, surtout avec autant de monde sur le plateau. De ce spectacle, La réponse des hommes, en ce moment aux Amandiers de Nanterre, tournée, je vais donner les dates tout à l'heure. Il vit enfin sa vie, il est comme tous les autres, fragilisé par la violence de l'épidémie. Mais au-delà de cette question, avec un report de presque un an et demi, est-ce que vous pensez qu'il a trouvé sa forme alors qu'il a peu de représentation ? Est-ce qu'il est aujourd'hui tel qu'il doit être ? Ou est-ce qu'il va encore bouger, ce spectacle ?
Oui, il va bouger. C'est énorme. Il faut qu'il bouge. C'est du spectacle vivant. Tous les jours, je fais des notes aux acteurs et j'ai envie de leur dire, tiens, ça résonne différemment. Tiens, un spectateur m'a parlé de ça. Et si on pensait à ça, quand on joue ça, et si on essaye autre chose, et non, ça bouge. Ça doit bouger. Sinon, il faut faire du cinéma et c'est les films qui regardent les spectateurs. Et qui les font vieillir, mais non, le théâtre, il faut que ça bouge.
Et ça veut dire que les autres spectacles, les précédents, qu'on espère vous voir reprendre dans les prochaines saisons, vous les retravaillerez à chaque fois et ils bougeront encore ? France Fantôme
Oui. Ouais. Oh oui, je pense. Même si la chanson Reboot, le texte a très peu changé.
Mais c'est une forme plus... ramassé.
C'est une forme peut-être un peu plus ramassée. Il y a 3 nouvelles actrices. Et puis, esthétiquement, je me suis aussi donné les moyens de faire une chose que je ne pouvais pas faire à l'époque. Mmh. Et donc, de venir réaliser un autre petit rêve par la chance du fait que ma compagnie a gagné en force et s'est structurée.
On va se retrouver dans quelques minutes pour conclure ensemble cette émission. Auparavant, affaire à suivre.
France Culture, Affaires culturelles, Arnaud Laporte.
Et comme chaque lundi, nous partons à l'étranger, direction ce soir la Thaïlande, pour parler des musiciens d'orchestre thaïlandais et de leur malaise, c'est le moins qu'on puisse dire, alors que les concerts symphoniques viennent à peine de reprendre, après 2 ans de restrictions sanitaires, les jeunes musiciens de l'orchestre national souhaitent prendre leur distance avec les élites du pays, l'armée et la monarchie, mais ils se heurtent à l'absence de financement de la musique d'orchestre. Pour en parler avec nous, Carole Izou, correspondante de France Culture à Bangkok, bonsoir.
Bonsoir Arnaud.
Alors Carole, vous êtes allée écouter l'Orchestre National de Bangkok qui donnait il y a quelques semaines son premier concert depuis près de 2 ans. On imagine que les musiciens étaient très heureux.
Oui, ils étaient vraiment très soulagés. Hein. Imaginez-vous, près de 2 ans sans concert et donc sans salaire pour certains ou avec des salaires extrêmement diminués. La Thaïlande, c'est encore un pays en voie de développement. L'État n'a pratiquement versé aucune aide pendant la crise sanitaire. Autant vous dire que le statut d'intermittent du spectacle n'existe pas ici, hein, ni d'ailleurs toute forme d'allocation chômage. Et donc, beaucoup de musiciens ont abandonné la musique pendant cette crise. Ils se sont mis à travailler comme livreurs. Certains ont même vendu leur instrument pour survivre. Et donc oui, c'était un immense soulagement pour eux de se produire à nouveau en public sous la direction d'un des chefs d'orchestre les plus célèbres du pays, Vanich Potavanich, qui avait choisi pour son grand retour un programme manifestement destiné à mettre tout le monde d'accord, Mozart, Shostakovich et une composition originale du chef d'orchestre, justement Deep Impression, l'histoire d'une princesse qui tombe amoureuse d'un jardinier. On écoute un extrait. Voilà, donc c'est vrai que la musique symphonique thaïlandaise, c'est-à-dire composée par des Thaïlandais, eh bien, elle est souvent très narrative, elle fait un peu musique de film, et si on prête l'oreille, quand on connaît un peu le contexte, on repère toute une série de petits motifs musicaux qui rappellent des chants folkloriques thaï, des chansons chinoises populaires, toute une série de petits motifs que les Thaïlandais ont dans l'oreille, et selon les mots du compositeur lui-même, il s'agit de faire en sorte que le public puisse s'approprier cette musique qui reste bien sûr une importation occidentale.
Et d'ailleurs, à ce propos, Carole, comment est-ce que la musique symphonique est arrivée en Thaïlande ?
Alors ça s'est passé vers la fin du 19e siècle, à la cour du roi Rama V, qui a progressivement introduit d'abord les cuivres et puis les cordes, les ensembles de musique de chambre. Les cuivres ont tout de suite été adoptés par les militaires qui ont monté un peu partout des fanfares, ce qui a créé des revenus fixes pour les musiciens traditionnels qui jouaient à l'origine d'autres instruments, bien sûr, mais qui sont allés vers cette nouvelle musique qui pouvait leur garantir un salaire. Aujourd'hui encore, la famille royale est le principal mécène de la musique d'orchestre, suivi de près par l'armée. Et donc, musique d'orchestre et aristocratie sont aujourd'hui encore très intimement liés en Thaïlande.
Et des liens qui posent problème aux jeunes musiciens. Il faut rappeler que depuis plus de 2 ans, la Thaïlande a vu grandir un mouvement social mené par la jeunesse, un mouvement de contestation contre les privilèges justement des élites aristocratiques et militaires.
Oui, et ce sont même eux, ces jeunes, ces étudiants, qui ont osé pour la première fois l'impensable, c'est-à-dire réclamer une réforme de la monarchie en Thaïlande, alors que jusqu'ici, l'institution était considérée comme quasiment sacrée, et qu'aujourd'hui encore, évoquer même une réforme peut valoir aux Thaïlandais jusqu'à 15 ans de prison au nom de la sévère loi de lèse-majesté. Et donc, bien sûr, les jeunes musiciens d'orchestre se retrouvent coincés entre leur appartenance à cette génération, qui demande un changement radical dans la société thaïlandaise et le fait qu'il soit entièrement financé par ces élites auxquelles les jeunes demandent des comptes.
Et le fossé s'accentue de plus en plus avec la professionnalisation des musiciens de musique classique.
Et oui, parce qu'il y a encore quelques années, la musique symphonique était tellement réservée à une élite aristocratique et surtout, le milieu fonctionnait tellement sur la base du copinage, du népotisme, que c'était uniquement les enfants eux-mêmes de familles aristocratiques qui jouaient dans les orchestres. Mais aujourd'hui, avec la volonté d'avoir des orchestres de meilleure qualité et donc un recrutement plus large, plus professionnel justement, eh bien les jeunes musiciens talentueux qui composent l'orchestre national sont issus des classes, disons, moyennes supérieurs. Ils ont fait des études, leur mentalité a complètement changé. C'est ce que m'expliquait Win Rapidet, c'est un jeune chef d'orchestre qui dirige un studio d'enregistrement, le studio 28 en banlieue de Bangkok.
Vous savez, aujourd'hui, les musiciens sont éduqués, ils sont allés à l'université. ils pensent complètement différemment de leurs aînés. Je pense que la nouvelle génération, celle qui passe son temps sur les réseaux sociaux, sur Twitter, est beaucoup plus libérale, progressive. Ce serait une erreur de penser que les musiciens d'orchestre, pour une raison ou une autre, seraient plus conservateurs, plus en faveur de la monarchie ou du régime militaire. Le mouvement de jeunesse thaïlandais inclut toute la jeunesse.
Et au sein de cette jeunesse révoltée, on trouve aussi des musiciens d'autres styles de musique, notamment la musique traditionnelle ou le rap, qui ont plus visiblement choisi leur camp, avec des musiciens qui sont aujourd'hui pour certains en prison, aux côtés des leaders étudiants. Mais la grande différence, c'est que pour les autres styles de musique, bien sûr, oui, c'est risqué de s'exprimer contre les élites, mais la survie économique des musiciens repose sur le public. Ce n'est pas le cas de la musique symphonique, qui dépend encore entièrement des subventions de l'aristocratie. Voilà pourquoi il est absolument crucial pour ces musiciens de développer leur public en adaptant peut-être davantage la musique d'orchestre au patrimoine musical thaïlandais pour gagner tout simplement leur indépendance, leur liberté artistique.
Merci Caroline Zou pour ces nouvelles venues de Thaïlande. On souhaite en effet à ces artistes, quels qu'ils soient, de conquérir cette indépendance. Deux minutes encore ensemble, Diffène Raffier. On a parlé du passé, du présent. Évoquons l'avenir. L'avenir, ce sera le 7e art.
L'avenir, oui, j'aimerais beaucoup. J'y travaille énormément. J'ai écrit un long métrage que j'ai adapté de ma deuxième pièce, qui s'appelle Dans le nom. Et j'attends des réponses pour un financement.
Vous êtes prête?
Ah, je n'ai jamais été aussi prête.
Et déterminée.
Et déterminée, oui.
Déterminée avec une production, avec une distribution.
Un distributeur, je suis très bien accompagnée. Maintenant, ouais. Il faut qu'il y ait ce petit plus, voilà, quelqu'un qui nous fasse confiance et la première aide qui en débloquera d'autres. C'est un système très, très long. Il faut être vraiment pugnace. Je le suis, mais là, c'est le moment d'avoir un petit coup de pouce.
Bon, c'est cet autre appel, mais pour finir, ce désir-là de cinéma, alors il remonte très très loin, lui aussi? Ou est-ce qu'il s'est imposé à vous?
Ah non, il remonte de l'enfance, clairement, puisque j'ai grandi dans un décor de cinéma, à côté de Disney. Donc je crois que ça vient de là, en fait. J'ai grandi dans des studios, clairement. C'était une ville simulacre qui imite d'autres villes. Les gens ont l'air de figurants. Les émotions aussi sont étranges dans cette ville. Et j'ai fait un film, d'ailleurs, un moyen-métrage sur cette ville. Et donc je crois clairement que cet appétit de l'artifice et de l'art vient de cet endroit.
Et c'est lui qui va nourrir aussi votre cinéma à venir.
J'espère, oui.
Merci Diffène Raffier d'avoir été ce soir notre invité. Alors avant le cinéma, le théâtre, le spectacle La Réponse des Hommes que vous avez écrit et mis en scène se joue au Théâtre des Amandiers à Nanterre en co-réalisation avec l'Odéon Théâtre de l'Europe, c'est jusqu'au 28 janvier. Ensuite en tournée du 3 au 12 février au Théâtre National Populaire de Villeurbanne, 23 et 24 février au Centre Dramatique National de Lorient, du 2 au 4 mars à la Comédie de Saint-Étienne, CDN également, du 9 au 11 mars au Théâtre de la Cité CDN de Toulouse, du 16 au 19 Théâtre Olympia CDN de Tours, 24-25 au Phoenix Scène Nationale de Valenciennes, 31 mars au Préau Centre Dramatique National de Vire, et du 6 au 9 avril au Théâtre du Nord. J'ai oublié des dates?
Oui, le 10 janvier aujourd'hui, c'est l'anniversaire aussi de quelqu'un de très important, mon père.
Bon, le message est passé du côté d'Uzès, si j'ai tout suivi. Pour la chanson Reboot, il y a des dates à venir en mars, en avril, mai, juin. Ce sera du côté de Villeneuve-d'Ascq, de Dijon, de Lorient et de Béthune. Cette émission, comme toute celle de la chaîne, est à écouter ou podcaster sur le site franceculture.fr ou l'application Radio France, émission préparée par Aïssa Toundoy, Boris Pinot, Anouk Minaudet, Dina Pellaros et Lucille Como.
France Culture. L'esprit d'ouverture.